VOA Afrique, les infos à Washington.
Avec vous Henri Francisque, 13h à Dakar, 14h à N'Djamena, bienvenue à notre journal. Au Mali, le dépouillement du vote est en cours après le second tour de la présidentielle dimanche. Les résultats officiels du scrutin, le deuxième depuis l'intervention française qui a mis en déroute les djihadistes dans le nord du pays en 2013, ne sont pas attendus avant le milieu de la semaine. Le vainqueur du duel entre le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta et l'opposant Somaïla Cissé entrera en fonction début septembre, avec la lourde tâche de relancer l'accord de paix conclu en 2015 avec l'ex-rébellion à dominante Touareg, dont l'application accumule les retards. À 73 ans, Ibrahim Boubacar Keïta est en position de force pour remporter un second mandat de 5 ans. Au premier tour, il avait rassemblé 41,70% des suffrages contre 17,78% des voix pour Soumaïla Cissé, un ex-ministre des Finances de 68 ans qui n'a pas réussi à unir l'opposition pendant l'entre-deux-tours. Le scrutin de dimanche a été émaillé d'incidents, notamment le meurtre d'un agent électoral dans la région de Tombouctou par des hommes armés non identifiés et les possibilités pour un certain nombre d'électeurs d'accomplir leur devoir électoral. Mais le scrutin s'est généralement bien déroulé dans les grandes villes, sans qu'il y ait eu affluence aux urnes. Le film des événements avec le correspondant de VOA Afrique à Bamako, Kassim Traoré.
Un second tour très attendu, mais qui n'a pas répondu aux attentes des observateurs et qui pensaient que les Maliens allaient se bousculer devant les urnes. Tel n'a pas été le cas, surtout à Bamako. Certains pensent que c'est à cause de la pluie, mais en réalité, même après, les Bamakois ne sont pas sortis pour aller glisser leur bulletin dans l'urne. De façon générale, ce scrutin a été émaillé d'incidents au centre et au nord du pays. Dans la localité de Nampala, des assaillants ont emporté 12 bulletins de vote avant de créer la panique chez les populations. À Niafunke, c'est un jeune président bureau de vote qui a été assassiné par des hommes en armes qui ont fait irruption dans un bureau de vote. Après ce forfait, les mêmes hommes armés ont brûlé le matériel électoral. C'est après cet incident que l'armée malienne est revenue sur place pour récupérer le corps du jeune avant de commencer des opérations de ratissage dans la zone. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Pour plus de détails sur les incidents dans le cercle de Niafunke dans le nord du pays, rejoignons notre correspondant sur place, Sekou Abdoulkader Maïga.
À Arkodia, le président du bureau de vote 2 a été froidement assassiné à bout portant par des hommes armés qui ont fait irruption dans le bureau aux environs de 14h30. Selon plusieurs témoins, des hommes armés non encore identifiés ont d'abord tiré devant le bureau de vote, chassant ainsi les électeurs avant de tirer sur Ibrahima Alassane Cissé, président du bureau de vote. Les autres agents électeurs ont aussitôt pris la fuite dans la brousse. Plus tard dans la journée, aux environs de 17h, les présidents des bureaux de vote de Niodougou, Guati et Banyaga de la commune de Sobundu, très paniqués, nous signalant que des individus armés leur ont tiré dessus. Ceux de Guati ont été dépouillés de leurs biens, argent, téléphone et même des habits. Il faut signaler que le cercle de Niafunke est très vaste et s'étend jusqu'à la frontière mauritanienne et fait 359 bureaux de vote pour 84 473 électeurs. Sécuriser toute cette zone cherchant le mode asymétrique d'opération des bandits est une tâche difficile. Depuis Niafunke, Sekou Abdoulkader Maïga pour la VOA.
Élection en Afrique toujours, Zimbabwe, il faut dépasser la période électorale et embrasser l'avenir, a affirmé ce lundi le président Emmerson Mnangagwa, dont l'élection est contestée par l'opposition qui a saisi la Cour constitutionnelle vendredi dernier. Dans un discours à l'occasion de la journée des héros de l'indépendance, le chef de l'État a répété aujourd'hui que le scrutin avait été libre, équitable, transparent et crédible. Et il a accusé l'opposition d'être responsable des violences post-électorales. Arrivé au pouvoir en novembre dernier, après le coup de force contre l'ex-président Robert Mugabe en novembre dernier, Emmerson Mnangagwa a dû repousser son investiture initialement prévue ce dimanche en raison du recours de l'opposition qui conteste les résultats de l'élection du 30 juillet. Le scrutin, le premier depuis la chute de Robert Mugabe, resté 37 ans au pouvoir, a été remporté dès le premier tour par Emmerson Mnangagwa avec 50,8% des voix devant le leader du mouvement pour le changement démocratique d'opposition, le MDC, Nelson Chamisa, qui a obtenu 44,3% des suffrages. L'opposition parle de fraude massive et assure avoir gagné le scrutin. La Cour constitutionnelle a 14 jours pour trancher.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Au Togo, le ministère de la Justice a ouvert une enquête la semaine dernière sur la profanation de mosquées à Lomé. Alors que les catholiques expriment leur solidarité à l'égard des fidèles musulmans et exhortent les Togolais à préserver la concorde et les bonnes relations entre les diverses communautés religieuses du pays. Le reportage à Lomé de la correspondante de VOA Afrique, Kai Lawson.
La communauté musulmane du Togo est en colère. Des mosquées situées à Goué, dans la banlieue nord de Lomé, ont été la cible de profanation. Pour l'Union musulmane du Togo, il s'agit des actes de sabotage et de provocation qui s'apparentent à des crimes de lèse-majesté à l'endroit de la communauté musulmane. Abdou Latif Mako est l'imam de la mosquée d'Agoué de Makoué. Il revient sur ces délits.
Dans la nuit du 27 au 28 juillet, les fidèles de la mosquée 6 à Agoué Assiéyé ont trouvé les copies du Saint-Coran de leur mosquée déchirées, chiffonnées, puis accrochées aux grilles de la clôture. Les auteurs de ces profanations des lieux sacrés ont poursuivi leurs actes dans deux mosquées dans le quartier Kamfir. Ceci dans la nuit du 31 juillet et du 3 août. Les mosquées ont été incendiées, les exemplaires du Saint-Coran détruits et les biens matériels saccagés.
Ces actes risquent de menacer le vivre ensemble religieux au Togo, estime-t-on. Le professeur Magloire Kwakubi de la Commission épiscopale Justice et Paix insiste sur la forte cohésion interreligieuse qui prévaut dans le pays.
C'est inquiétant. Vous vous rappelez que lorsqu'il y a eu le cas Charlie Hebdo, pas moins d'une quarantaine d'églises ont été brûlées au Niger. Bon, je ne crois pas que nous sommes dans ce cas d'espèce-là, parce que au Togo, personne n'est inquiété pour sa confession. Tout le monde coexiste pacifiquement, donc il n'y a pas de bisbille entre les religions. Depuis des lustres, il n'y a jamais eu de problème.
Dans un élan de compassion et de solidarité, la conférence des évêques du Togo a appelé à préserver le vivre ensemble pacifique entre les communautés religieuses dans le pays. Devant de tels actes qualifiés d'ignobles, l'Union musulmane du Togo invite la communauté à redoubler de vigilance. Imam Ali Sosa de l'Union musulmane du Togo.
L'Union musulmane, le conseil qu'il a donné à tout musulman du Togo, c'est d'être vigilant et patient. Et ils nous ont donné des directives à prendre. Ceux qui n'ont pas de gardiens, ils n'ont qu'à chercher les gardiens pour garder leur mosquée.
Suite à ces incidents, le ministère togolais de la Justice a ouvert une enquête pour mettre la main sur les auteurs et commanditaires de tels actes de profanation. Kailosson, Lomé, VOA Afrique.
Actualité hors d'Afrique maintenant. En Turquie, la Banque centrale a annoncé ce lundi qu'elle prendrait toutes les mesures nécessaires pour assurer la stabilité financière, alors que la livre turque est en chute libre. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a estimé que cette chute libre résulte d'un complot politique contre son pays. Il a promis de chercher de nouveaux marchés et alliés, alors que les relations sont au plus bas entre la Turquie et les États-Unis. Bagal Sikora.
Le but de l'opération est d'obtenir la reddition de la Turquie dans tous les domaines, de la finance à la politique, a dit Recep Tayyip Erdogan, ajoutant que son pays ne va pas rester les bras croisés. Les États-Unis et la Turquie sont partenaires au sein de l'OTAN et le Pentagone a une base à İncirlik, centre des opérations contre le groupe État islamique. Mais la livre turque s'est effondrée suite à la décision du président Donald Trump de doubler les tarifs douaniers sur l'acier et l'aluminium turc. Washington réclame la libération immédiate du pasteur américain Andrew Brunson, jugé en Turquie pour terrorisme et espionnage. Il a été placé fin juillet en résidence surveillée après un an et demi de détention. De son côté, la Turquie demande l'extradition de Fethullah Gülen, prédicateur établi sur le sol américain et soupçonné par Ankara d'être l'architecte du putsch manqué de juillet 2016.
Et pour terminer, en Iran, 67 personnes ont été arrêtées ces dernières semaines dans le cadre d'une campagne anticorruption approuvée par le guide suprême Ali Khamenei. Parmi les personnes placées sous les verrous, le vice-gouverneur de la Banque centrale ainsi que d'autres responsables accusés de corruption et de spéculation. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.